Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans l'émission En toute bonne foi. Après avoir évoqué ces deux dernières semaines les charismes, et je rappelle que vous pouvez retrouver ces émissions en tapant sur le clavier de votre ordinateur Radio Courtoisie et France Andrieux, ce sont normalement les deux mots-clés pour retrouver toutes nos vidéos. Notez que toutes nos émissions ne sont pas filmées, comme c'est le cas en ce moment, et que vous pouvez les retrouver en audio sur le site de Radio Courtoisie, rc.fr. On ne peut pas faire plus simple. Bonjour Joseph.
Bonjour France.
Nous recevons de nouveau cette semaine Joseph Chalier, auteur, conseiller en édition, qui va nous parler de joyeux miracles. De toute façon, les miracles sont toujours joyeux. Dans le livre sur les charismes que nous avions évoqué ces deux derniers dimanches, vous dites que lorsque Jésus opère des miracles, certains le suivent et d'autres veulent le mettre à mort. Chaque miracle est un signe réel de la victoire à venir. Et vous citez Chesterton, ce qu'il y a de plus incroyable dans le miracle, dans les miracles, c'est qu'ils arrivent. Alors, un miracle, c'est une intervention divine. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 156, dit que ce sont des preuves extérieures de la révélation. La manifestation de la puissance et l'intervention de Dieu qui apporte une révélation de sa présence et de la liberté dont il use pour accomplir ses desseins. Alors, vous précisez dans votre livre que la science parle de phénomènes inexpliqués et non pas inexplicables. Et l'on découvre que trois mots grecs existent pour le mot miracle, signe, prodige ou merveille et puissance dans le sens de force. Alors, les Français se disent croyants à 37%. Curieusement, 43% disent croire au miracle. Donc, il y a plus de gens qui croient dans les miracles que de croire en Dieu.
Eh oui, ça nous dit beaucoup de choses.
Oui. Alors, pour l'Église catholique, toujours, hein, le miracle n'est pas seulement un événement surprenant, c'est une intervention divine, comme on le disait. Et la Bible utilise quatre termes pour le désigner. Puissance, dont l'origine divine de l'acte, prodige, l'émerveillement suscité, la guérison, le bienfait physique apporté, et parfois le signe, c'est-à-dire le message spirituel caché derrière l'événement. Alors, nous savons que l'Église est loin de valider chaque déclaration. Elle fait preuve d'une prudence extrême pour les guérisons comme à Lourdes, hein, où seuls 70 sur 7200 ont été reconnus, sachant que certaines personnes ont vécu des miracles, mais n'en ont pas fait part. Et alors, je terminerai avec les 7 critères rigoureux de Benoît XIV.
Benoît XIV, vous êtes prophète.
Maladie. Oui, qu'est-ce que je dis ? Benoît XIV, Benoît XVI.
Alors, je ne sais pas, c'est peut-être Benoît XIV, mais je crois savoir ce que vous allez citer. Donc.
Maladie grave ou incurable, ah, diagnostic médical certain, symptômes physiques mesurables, excluant le psychique, absence de traitement médical efficace, guérison soudaine et instantanée, guérison totale, guérison durable et sans rechute. Voilà, le cadre est bien posé, comme nous aimons le faire sur ces sujets. Alors, Joseph, nous parlions de charisme les deux dernières semaines. Vous avez peut-être vous-même vu des miracles. En tous les cas, vous les rapportez dans ce livre. Alors, je ne veux pas tomber dans ce qui vous insupporte hein, et que vous reprochez dans votre livre. Je parle de se laisser déborder par le merveilleux. Et le voir partout. Pourquoi commencer par cet avertissement ?
Parce que j'obéis à mon éditrice, qui me dit, quand on parle à des lecteurs, il faut parler à des lecteurs, pas oui. Parler à soi. Et c'est bien de savoir qui parle. Voilà. Et donc, c'est un peu surprenant parce que j'aime beaucoup les histoires, les miracles.
Mais comme tout le monde, je crois, non ?
Oui, beaucoup de gens en tout cas aiment bien. Mais je suis allergique aux histoires de miracles. Donc, c'est un peu surprenant. Et, et en fait, en lui en parlant comme ça, elle m'a dit, mais ça, il faut que tu le dises. Parce que c'est de là que ça vient. Je n'aime pas les exclamations de voix, les intonations. C'est pas moi, voilà, c'est tout. Mais c'est vrai que j'aime l'histoire surprenante qui titille mon cerveau, qui m'encourage dans la foi ou qui m'émeut, ça dépend un peu, ou les trois. L'histoire décalée, surprenante, évangélique, quoi, voilà. Oui. D'un acte d'apôtre, en fait. Parce que dans mon livre, c'est pas complètement des miracles. On assume, et je le dis très bien dans l'introduction, je veux dire, c'est pas les miracles au sens Benoît XVI du terme, mais c'est des signes, c'est des prodiges, c'est des oui. merveilles. Le mot miracle est plus connu aujourd'hui, donc on l'utilise. Et c'est dans différents cas de figure. Voilà. Donc ça peut être des voix qu'on entend, une mère de famille qui entend une voix, et c'est très beau, dans ce que cette voix lui dit. Mais ce n'est pas une guérison d'une maladie médicalement prouvée, voilà, par exemple. Et ce que j'aime beaucoup, c'est un peu distinguer les choses et bien les remettre dans leur contexte. Quand on me raconte un miracle où en fait il n'y a pas grand-chose de miraculeux, si ce n'est le désir de s'émerveiller, voilà, moi j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps. Alors je suis désolé, hein, c'est un peu abrupt, et excusez-moi pour les auditeurs ou auditrices qui seraient... eux-mêmes frustrés de ce que je suis en train de dire. Mais voilà, moi, ça m'exaspère. On peut s'exaspérer les uns les autres, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose de... Je préfère un miracle bien authentifié, bien ouais. cachère, comme on dit. Voilà, ça me meut beaucoup et je n'ai pas besoin de m'émerveiller au moindre petit truc de besoin d'émerveillement. Le sondage que vous avez cité est très intéressant. 43% des Français... croit au miracle. Il y a un autre sondage qui dit que 51% des Français croient au miracle. Donc ça dépend un peu. Il y a plus de Français qui croient au miracle que de Français qui croient en Dieu. Il y a plus de Français qui croient au miracle que de Français qui prient. Ce qui est quand même la base pour un miracle, c'est d'agir et de prier.
Bien sûr.
Ça dit quelque chose. Et ça, on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de pays. Cette attirance pour le miracle, donc, et ne parlant de pays, et même de confession, c'est ça que je veux dire. Des pays à majorité musulmane ou à majorité hindoue croient au miracle.
Oui. Mais ils ont peut-être lieu.
Oui, ils ont peut-être lu, mais il y a quelque chose de cet attrait du surnaturel pour moi. Voilà, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, moi j'en fais dire ça. Il y a quelque chose de l'attrait du surnaturel, peut-être aussi parfois un peu, il faut être honnête, on attend tout d'une force supérieure, et puis comme ça on a moins à faire. Quoi. Là, ce qu'il nous faudrait en France aujourd'hui, c'est un miracle.
Oui, je
suis d'accord.
Ou alors
il nous faut plein d'autres choses. Mais il y a une espèce d'attente, un peu d'attentisme. Voilà. Et donc ça, pour moi, ça m'exaspère parce que c'est pas chrétien. Mais comme tout ce qui n'est pas chrétien, on peut être plein de compassion pour là, mais quand c'est dit par des chrétiens sous un vernis catholique et souvent parfois même autour de la Vierge Marie, moi ça m'exaspère et je demande pardon à la Vierge Marie. Je dis, mais en fait, ma pauvre Vierge Marie, vous n'êtes pour rien du tout. Là, on vous fait un truc. Enfin voilà, moi j'ai déjà eu des gens qui se sont émerveillés devant un nuage au-dessus de l'autre qui avait la forme d'une vierge. Et pour eux, c'est une apparition. Non, c'est marrant. C'est un nuage qui a la forme d'une vierge. Et encore, on peut faire des trucs. Il y a une science comme ça de lire des choses dans les nuages. Je me dis non, voilà. Par contre, la Vierge qui guérit, ou en tout cas, un chapelet qui est récité avec foi dans plein de paroisses de France et qui fait des miracles, ça, moi, j'y crois, mais je ne les vois pas toujours.
Oui.
Donc, quand j'en vois un, je m'émerveille.
Alors, vous dites qu'il est dangereux de chercher des signes. L'homme en a néanmoins besoin.
Mmh.
Et il n'est pas non plus rare qu'un prêtre nous dise « Si cela doit se faire, vous aurez un signe ».
Oui, et donc
Et donc, ça veut dire que eh bien, ces signes, il faut le chercher, finalement.
Ah oui, oui, oui. Je vais reprendre un texte de Lumen Gentium, qu'on a cité la semaine dernière, et qui était pour les charismes, qui, je trouve, peut faire tout à fait là. C'est-à-dire, les dons extraordinaires, on peut dire les signes, bon, je vais remplacer, voilà, désolé, je corrige Vatican II, mais les signes ne doivent pas être témérairement recherchés. Moi, ce qui me semble ajusté, c'est le côté téméraire. Chercher des signes, pour des signes, on va les trouver, mais ils seront... Mais en fait, c'est un peu comme si vous... J'avais comme ça vu une fois un petit dessin, quelqu'un cherchait des signes de Dieu et trouvait un... Et en fait, c'était des panneaux indicateurs. Et à un moment donné, il se prend le panneau indicateur dans la tête. Il dit, mais c'est pas le panneau indicateur que je voulais, c'était le bon Dieu. Et donc, on voit une église au loin.
Oui.
Le gars n'est toujours pas réussi à aller à l'église. Et on le voit avec des petits panneaux indicateurs partout qui pointent vers l'église. Et lui, se prend la tête dans tous les panneaux indicateurs. Moi, je pense que ça m'a fait mourir de rire. Oui. Et ça dit bien de... En fait, voilà. Après, ce que vous disiez l'abbé, qu'est-ce qu'il vous disait ?
Non, on entend de temps en temps des prêtres quand on monte un projet un peu spirituel. Écoutez, si cela doit se faire, vous aurez un signe.
Oui, j'entends, il faut peut-être voir un peu le...
Le signe, ça peut être... enfin, c'est n'importe quoi, une chose toute simple.
Oui. Et encore... replaçons les choses. Un signe est un signe, c'est pas forcément un miracle.
Ah, mais je n'ai pas parlé de miracle, donc, en l'occurrence.
Voilà, ouais. Si un signe reste un signe, je trouve que parfois, il faut se méfier des petites phrases comme ça, et les prêtres, malheureusement, ils sont très friands, parce que je pense qu'on leur demande beaucoup de conseils, donc parfois, il lance un truc. Pardon, mes chers frères prêtres, mais non, mais parfois, voilà. C'est pas parce qu'un prêtre dit quelque chose que c'est vrai. Il n'est pas toute l'Église.
Oui, mais en fait,
donc,
je veux dire, c'est une manière de nous dire aussi
manière de dire,
que
oui.
ça, on s'appuie sur quelque... Il faut s'appuyer sur, dans sa prière.
Ah, oui,
il faut
oui.
pouvoir discerner ce, que,
oui.
Ce qui nous est envoyé.
Et ben, peut-être que, là, on fait de l'interprétation de ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, il y a quelque chose de... Vous verrez un signe, ça ne veut pas dire un signe surnaturel, ça ne veut pas dire un signe extraordinaire, ça veut pas...
Qu'est-ce que ça veut dire, ça peut être signe... quelqu'un qui vous dira quelque
Exactement.
Chose.
Et... Un signe très concret,
ou alors,
un signe de... Oui, extrêmement concret. En fait, si sa phrase est un appel au réel, moi je trouve ça très beau, parce que le réel, il y a du surnaturel et il y a du naturel.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut.
Voilà.
On sera d'accord.
On sera d'accord.
Alors à cela s'oppose le rationalisme primaire, alors qui vous agace aussi profondément.
Ah oui, parce que c'est extraordinaire. Il y a des gens... Une fois, je lisais dans Marianne, je lis Marianne toutes les semaines, c'est très intéressant. Et une fois, il y avait un journaliste qui ironisait un peu sur les miracles à Lourdes.
Oui.
Et qui disait qu'en fait, voilà, il y a des millions de gens à Lourdes chaque semaine, mais qu'il n'y a que 70 miracles donnés dans l'année. Depuis 150
reconnus
ans.
Reconnus depuis les apparitions.
Reconnus. Et je disais, bon, il n'était pas du tout spécialiste du fait religieux. Il y a d'autres journalistes à Marianne plus calés que lui sur le fait religieux. Lui, je me suis dit, mais là, on est pris en flagrant délit de snobisme, de rationalisme, d'athéisme primaire, un peu, voilà, bas de plafond. Parce qu'en fait, il compare des choses qui n'ont rien à voir. Il y a tous les jours au bureau médical des dizaines de personnes qui viennent constater un truc surprenant. Pas un miracle,
oui.
Un truc surprenant. Que les médecins qui sont à ce bureau peuvent constater. C'est un constat, ça, c'est bêtement scientifique. Je constate que cette personne vient constater un truc, elle a son dossier médical sur les yeux, c'est pas normal. Elle ne voyait pas de l'œil gauche depuis 20 ans, et là, elle voit. Bon, mais elle n'est pas allée chez le toubib depuis 10 ans, donc en fait, le miracle, il ne sera jamais reconnu. Hein.
Oui, d'accord.
Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Et en fait, le journaliste citait un truc très rationnel, chiffres. On estime que dans tous les milieux de médecins, d'hôpital, etc., il y a une guérison inexpliquée, pas inexplicable, inexpliquée sur 100 000.
Oui.
Et moi, j'avais lu une fois un autre truc sur Lourdes, c'est que si on compte le nombre de personnes et le nombre de... C'était un sondage qui avait fait ça. C'était même pas un sondage chrétien, c'était un sondage, je ne sais plus pour quelle revue. En fait, on dépassait ce 1 sur 1000.
Ah oui.
1 sur 100 000.
Oui,
donc, c'est pas inintéressant.
Oui, oui, bien sûr.
C'est que rationnel. Ah oui, c'est ça. C'était un travail de sociologue, d'étudiant sociologue sur Lourdes. Ils s'étaient intéressés aux chiffres de Lourdes. Ils se disaient, en fait, on a des déclarations. Alors, c'est purement déclaratif. Donc, c'est... Là encore, on compare du déclaratif à Lourdes à du dossier médical en assemblée d'hôpital. Donc, c'est pas exactement pareil.
Nous faisons une petite pause à présent.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Nous sommes cette semaine avec Joseph Chalier pour son livre « Joyeux miracle, 84 histoires véridiques pour stimuler votre foi » aux éditions de l'Emmanuel. Alors vous dites dès le début de votre livre que la course au miracle n'est pas de foi chrétienne, mais vous nous en présentez. Alors, où est-ce que vous avez épuisé ces histoires?
Ce sont toutes des histoires que j'estime authentiques et véridiques dans la mesure où c'est des gens qui me les ont racontées. Donc,
alors,
c'est des personnes que je connais.
C'est ça,
pour
même ceux qui habitent à l'autre bout du monde.
Non, il y en a sur 84, il y en a une quinzaine.
Ouais.
Où là, c'est des écrits que j'ai trouvés à droite à
d'accord.
gauche. Qui ont quand même toutes. Il y en a une qui a plus de 100 ans, les autres ont toutes moins de 50 ans. Ce que je voulais, c'était.
Quelque chose qui colle
d'actes
au temps.
D'apôtres d'aujourd'hui.
Oui, c'est
voilà.
ça.
Et il y aura sans doute un tome 2 où ce sera encore plus actuel.
Oui.
Parce qu'il y a vraiment de besoin. En fait, c'est des choses qui nous arrivent à des chrétiens lambda.
Est-ce que je suis désagréable, mais je ne veux pas l'être?
Oui.
Si je dis que ce sont de petits miracles, pas de grands miracles.
Ah
fait.
Oui, je ne voulais surtout pas de grands miracles.
C'est ça.
Ah oui, oui. En fait, je ne veux pas les... Enfin, les
parce que certains ne verront pas un miracle forcément derrière ce que vous racontez.
Tout à fait, je pense.
D'accord.
Oui, bon. Oui, il y a des gens qui seront déçus, mais ce n'est pas très grave.
Non, non, au contraire, je pense que...
Non, il y a quelque chose
de... Ce qu'il y a de bien, c'est
oui.
que je pense que ça peut justement nous ouvrir les yeux en nous disant, en ne faisant pas le caliméro,
oui.
et se dire, mais non, mais le bon Dieu est là, je suis accompagnée.
Exactement, oui. Pour moi, j'espère que ce bouquin suscite un enthousiasme et un émerveillement dans mon quotidien. On est chrétien, on n'est pas dans notre bulle spirituelle ou gazeuse, on est les pieds sur terre. Et dans mon quotidien, quel qu'il soit, que je sois paysan à Tarroiseau ou que je sois journaliste à Paris 16e, en fait, quel est mon quotidien? Et je suis avec le bon Dieu, je suis dans la religion où le Dieu est avec moi. Quels sont mes actes d'apôtre? Et ce bouquin en est plein. Mais en fait, je l'aurais appelé Acte d'apôtre 2.0, ça aurait été pas très compréhensif. Donc on a appelé ça Joyeux Miracle.
Alors, on a établi ensemble une liste de miracles, mais peut-être que vous ne voulez pas suivre cette liste et qu'il y en a d'autres que vous préférez raconter.
Comme vous voulez, sachant que le établi ensemble est un boulot euphémisme pour dire que je fais ce que vous voulez, France.
Merci, Joseph. Alors, il y en a un qui est intitulé « Attention aux bonnes sœurs ».
Ah oui, alors c'est bien lequel, celui-là. Oui, c'est une histoire autour de Mère Teresa.
Oui.
Donc à l'époque de l'URSS, dans une des maisons tenues par les sœurs de Mère Teresa,
oui.
en Arménie,
oui.
Se trouve une petite fille qui souffre d'une paralysie croissante des membres et des foies respiratoires. Quand les médecins arrivent à dire qu'elle va mourir dans la nuit, eh ben on prévient le prêtre. Alors secrètement, on est en URSS.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc on prévient le prêtre, premier miracle, on arrive à avoir un prêtre qui vient et qui est fidèle et qui est encore en vie. C'est un miracle aussi. Le prêtre, pour qu'il arrive à baptiser l'enfant, voilà, oui. avant qu'elle puisse mourir. Une sœur est là et elle prie pour la petite fille.
Mm-hmm.
Autre miracle, la fidélité d'une vocation religieuse. Vous voyez, c'est ça ce que je veux donner.
Oui, c'est cet enchaînement.
C'est merveilleux, quoi, en fait. Extraordinaire ce qu'on vit.
Enfin, elle fait son boulot, pardon.
Oui, elle fait les deux. Bah oui, mais on fait ce notre boulot et en même temps, elle est fidèle.
Mmh.
Voilà, cet appel un peu fou qu'elle a reçu. Tout le monde pense enterrer le corps de la petite fille le lendemain. Hein.
Oui.
Voilà. Cependant, au matin, la paralysie pulmonaire a diminué. Elle peut respirer normalement, ce qui n'est pas normal si rapidement.
Oui.
3 semaines plus tard, l'enfant entre dans la chapelle des sœurs et leur fait une danse pour les remercier de la prière.
Oui.
Voilà, moi ça, je trouve ça extraordinaire.
Bon, ça c'est une belle... C'est
voilà,
quand même un peu...
c'est tout simple, c'est très beau. Mmh. Mais ça, on peut aller plus loin si vous voulez.
Oui.
Voilà. La guérison étant un peu extraordinaire, le médecin, enfin les médecins, parce qu'il y en a plusieurs, font un rapport à la direction de l'hôpital. Cette direction de l'hôpital en parle à l'ordre des médecins d'Arménie.
Oui.
L'histoire remonte jusqu'aux autorités sanitaires de Moscou,
oui.
qui envoie alors une délégation de médecins et de psychiatres. Moscou envoie des médecins et des psychiatres, traduction, oui. ils sont bien athées,
oui.
Pour trouver quel traitement les sœurs ont utilisé. Ils sont bien rationnels, ils disent super, il y a un truc qui marche, on va l'utiliser. Durant l'enquête officielle, les sœurs expliquent comment elles prient.
Mmh.
C'est la réponse que comment vous avez beau guérir, ben là, on prie, on fait à notre père, bref. Et elle donne aux malades des médailles miraculeuses à la rue du Bac. Voilà ce qu'elles font, elles prient, elles donnent des médailles.
Mmh.
Le prêtre du couvent, lui, essaye aussi de faire comprendre ce qui s'est passé aux fonctionnaires communistes, etc. Il leur explique tout ça. Les membres de la délégation croient à l'organisation et ils ne croient pas seulement aux
miracle,
médailles.
Hein.
Oui, 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 c'est vrai. Voilà. Ils prennent une médaille et ils la collent en forme, comme une preuve. Voilà, ça aurait été un nouveau médicament, ils auraient collé le nouveau médicament. Moi, je trouve ça très drôle. 2 ans plus tard, donc autant dire que le rapport est tombé dans les limbes du fonctionnariat. Deux ans plus tard, le prêtre se tient à un carrefour de Moscou. Quand tout à coup, il entend une voix derrière lui l'appeler. C'est hallucinant, la rencontre providentielle.
Oui.
À Moscou, il est en voyage, il y a des milliers de gens à Moscou. Lui, il n'y va pas toutes les semaines à Moscou. Mmh. Enfin bref, c'est génial. Il se retourne, il reconnaît le jeune assistant de la commission d'enquête. Et il lui dit, père, quel formidable bazar de vous rencontrer. Alors, avec un grand P, tout le monde l'aura reconnu.
Oui.
Hier, j'ai été baptisé et reçu dans l'église orthodoxe. C'est certainement grâce à la médaille miraculeuse que vous nous aviez donnée.
Magnifique.
Voilà. Moi, là-dedans, il y a plein de choses qui m'épatent. De Funesse dirait, alors là, il m'épate.
Mmh.
Eh bien, le bon Dieu m'épate et les chrétiens m'épatent.
Alors, il y en a un autre qui m'a amusé par son titre. La Vierge serait-elle susceptible ?
Qu'est-ce que j'ai voulu dire là ? Enfin, là, je ne me rappelle plus. Hein. C'est quoi ?
Ben, la réponse est non, déjà.
Non, évidemment que la réponse est non. Je ne sais plus ce que c'est. Excusez-moi, j'ai écrit le bouquin il y a 2 ans et demi. Hein, donc... Ah oui. Alors, la Vierge serait-elle susceptible ? Évidemment que la réponse est non. En tout cas, non. C'est aussi la réponse que fait un vieil homme sur son lit de mort. Une réponse nette, claire et furieuse même, non à un prêtre qui lui propose les derniers sacrements.
Mmh.
Refus des sacrements au pied de la mort, il faut quand même avoir le caractère. Bon, voilà, le prêtre respecte la liberté du vieil homme et quand même s'installe dans un coin.
Il reste quand
prie
même.
Tranquillement ouais, son chapelet. Voilà.
Il aurait pu partir.
Ce que je ne sais même pas, c'est que, a priori, dans le témoignage que j'ai eu, je ne sais même pas s'il s'est rendu visible. C'est possible qu'il ait prié dans le couloir à côté.
Ah,
je trouve ça extraordinaire.
D'accord.
Enfin, dans les deux cas, ça serait beau. Alors que le bouffeur du curé s'approche vraiment de la fin, ou du début, ça dépend comment on voit les choses, le prêtre revient et renouvelle sa proposition, tout en évitant le mot confession. Donc là, le prêtre est un peu intelligent, il enlève du jargon, et voilà. La réponse du mourant est toute si nette. Au triple nom de Satan, c'est non. Oui, c'est très fort. Terrible. Complètement terrible. Le prêtre comprend alors là qu'il a affaire à plus lourd que ce qu'il pensait et il retourne à son chapelet. Puissance du chapelet. Hein.
Oui.
Il s'adresse à Marie. Dans notre église sont exposés bien des ex-voto avec l'inscription « Marie nous a exaucé ». Eh bien Marie, si tu laisses partir ce pauvre pécheur dans son éternité sans les derniers sacrements, je ferai mettre un ex-voto avec l'inscription « Marie ne m'a pas exaucé ». Je vous laisse deviner la suite, mais vous comprenez bien que la personne va évidemment accepter la confession.
Alors, il y en a une autre qui est très émouvante. C'est ce prêtre, en fait, qui est approché par un groupe de personnes qui vont l'évangéliser. Ça, c'est une histoire qui vous a été rapportée, peut-être, directement. Il est sur la plage. Qu'est-ce qui se passe?
Alors, c'est un tout petit peu délicat. Et donc, c'est un prêtre. Enfin, c'est une histoire qui a été donnée. En fait, c'est un témoignage.
Oui.
Le prêtre. Donc, vous avez déjà
la suite, c'est le prêtre qui a témoigné.
Le prêtre lui-même a donné ce témoignage à une. Comment on appelle ça? Je ne sais plus. À une conférence de prêtres à Ars.
D'accord.
Enfin, une récollection. Je ne sais pas. Il y avait des centaines de
J'avais
prêtres.
J'avais l'impression d'avoir entendu quelque chose d'un peu similaire.
Ah, c'est possible qu'il y ait eu un peu d'écho.
Mmh.
C'était lors de l'année du prêtre lancé par Benoît XVI.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Et ce prêtre. Alors, c'est vrai que c'est surprenant, mais maintenant je vais vous raconter l'histoire. Vous avez un temps d'évangélisation sur une plage.
Oui.
Deux missionnaires commencent à trouver le temps long au bout de plusieurs évangélisations de touristes où ils se prennent du vent. Voilà. Ils demandent quand même à Dieu, voilà, donc ils se remettent à prier. Voilà, Seigneur, on est là pour toi, pour t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Donne-nous à nouveau, fais-nous rencontrer les personnes qu'il faut, ouvre les cœurs des gens, etc. Ils invoquent fortement l'Esprit Saint. L'un des deux compères missionnaires se dirige vers un groupe. Il sent qu'il faut qu'il aille là-bas. Il y a plusieurs femmes très belles, un homme au milieu. Voilà. Et il propose d'échanger, tout simplement. Les femmes sont partantes, l'homme se tait. Bon, là-dessus, rien de surprenant. ils se mettent à parler, etc. Et puis à un moment donné, l'homme du groupe se met à pleurer. Et là, c'est plus surprenant. Il n'a toujours pas parlé. Hein. Il se met à pleurer. Et là, il avoue, il est prêtre.
Oui. Alors déjà, il faut l'avouer.
Là, c'est le moment de vérité.
Ouais.
Il se raccroche. En fait, les chrétiens qui viennent le voir, là, le prêtre est estomaqué, parce que voilà la suite. En fait, il traverse une période difficile. Il vient de décider, il y a quelques heures, de quitter le sacerdoce. Et donc, son triste enterrement de vie de jeune prêtre, il le fait à la plage avec ses nanas. Donc là, il est très ému. Il voit la main de Dieu aller très, 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 très loin pour aller le chercher. Quoi. Voilà. Et il accepte la prière de ses volontaires. Et petit à petit, évidemment, en fait, ce prêtre ensuite reçoit en fait une bénédiction nouvelle dans son sacerdoce et dans sa vie de chrétien et va rechoisir la vie sacerdotale. Voilà. Moi, ce serait extraordinaire parce qu'il y a quelque chose.
Ah, moi, ça m'a bouleversé.
Mais waouh. Bien sûr, on peut dire oui, s'il n'y avait pas ces chrétiens ou insensés, peut-être que le bon Dieu aurait fait autre chose. Hein. Mais en tout cas, il y avait des chrétiens sur la plage et il y a un prêtre qui est resté prêtre. Gloire à Dieu.
Alors, il y a une histoire qui m'a un peu piquée.
Et moi, parce que dans le livre, je commente un petit peu ce que je vous fais là à l'oral, et il y a de fait une question que j'avais oubliée, et je nous l'adresse à nous, parce que souvent, quand je pense à cette histoire, je pense à mes amis prêtres ou aux autres prêtres. Et je me dis, voilà, avec quel prêtre je me rends un peu proche avant qu'il soit sur la plage en train de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, avec quel prêtre je vais au cinéma, avec quel prêtre j'invite à manger un repas tranquillement, quel prêtre j'emmène en vacances? Moi, j'ai des amis prêtres qui ne partent jamais en vacances.
Non, mais on a l'impression
qu'ils sont incapables de partir en vacances si on part pas avec eux.
Ils sont surbookés.
Voilà. Oui, et donc
on
se dire.
On n'ose pas leur demander.
Exactement. Et de se dire, bah, en fait, à quel prêtre je. Ah, je. Oui, moi, je pense que oui, il y a quelque chose de.
Moi, je me dis, ça doit les barber, ils vont encore voir leurs fidèles.
Ben.
Ils ont besoin de se poser, voir d'autres têtes.
Oui, peut-être, mais en même temps, enfin, pour connaître beaucoup de prêtres, ils sont quand même dans une réalité de solitude qui n'est pas humainement juste si elle n'est pas accompagnée par les fidèles.
Oui. En fait, tout dépend de l'endroit où on habite, en fait.
C'est-à-dire.
Si on habite à la campagne où on a un prêtre seul, il dispose peut-être de plus de temps ou d'envie de partir en vacances avec ses paroissiens. Mais je pense à un prêtre de Paris qui est surbooké, tout le temps sollicité, parfois même étudié en plus du fait de la proximité. Il n'a surtout pas envie de nous voir.
Je ne sais pas, il y a quelque chose de. Je pense que dans les modalités, la modalité change, mais la fraternité. Prêtre laïque, elle est essentielle. Pape François l'avait redonné une fois avec son charisme de la parole, qui était de ne pleurez pas les prêtres qui quittent le sacerdoce si vous n'invitez pas vos prêtres à manger. C'est violent comme formule, mais ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire, je pense que dans la formule, dans la formulation, ça change. Un prêtre de Paris qui est surbooké, excusez-moi, mais en fait, il est prêtre. Il n'est pas ministre d'un gouvernement de 2 heures à aller partout, à s'exciter de tout. Est-ce qu'il va au cinéma? Est-ce qu'il fait du sport? Est-ce que j'en sais rien? Il y a des choses comme ça. Mmh. Et moi, je m'adresse plus aux hommes quand c'est comme ça, même aussi. D'accord. Je pense que les hommes, on a une fraternité masculine à apporter aux prêtres qui peuvent beaucoup les aider.
Bon, alors, on va regarder les choses autrement. Merci beaucoup, Joseph. Alors, on n'aura pas l'occasion, enfin, le temps de lire de raconter une autre histoire. Mais il faut acheter ce livre. Je vous invite à le faire, chers auditeurs. J'en rappelle le titre, Joyeux Miracle, 84 histoires véridiques pour stimuler votre foi. Merci, Joseph, pour ces 3 émissions.
Merci à vous, France. Merci
voilà,
à vos auditeurs.
Voilà, nous parler de ces charismes, ces miracles qui jalonnent la vie des croyants ou non. Certains les veulent, d'autres n'en veulent pas, mais espérons que chacun un jour verra combien le ciel vient sur terre pour aider les hommes. Jésus l'a bien dit, vous ne serez pas seuls. Alors ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs. À dimanche prochain.
Amen.